J'aimerais pouvoir commencer une nouvelle série de messages sur les symboles qui sont employés dans l'Écriture pour nous faire comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, je l'avais cité rapidement dans les messages d'introduction, mais il faut l'étudier, c'est extrêmement enrichissant, que le Saint-Esprit est comparé à une colombe, que le Saint-Esprit est comparé à de l'huile, il est comparé, on l'a chanté, à du vent, il est comparé au feu, il est comparé à des fleuves abondants. Et au travers de tous ces symboles de l'esprit, il y a énormément à découvrir et à redécouvrir pour nos vies. Alors, je ne parlerai pas trop de cet aspect de la colombe, puisque j'en avais déjà parlé, souvenez-vous, quand on avait fait ce message « N'attristez pas le Saint-Esprit », Paul aux Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit », j'avais parlé de la colombe. Mais j'aimerais, dans les temps qui viennent, pouvoir parler avec vous de l'huile, du feu, de l'eau et du vent. Et j'aimerais que l'on commence aujourd'hui avec ce premier symbole. Il n'y a pas d'ordre plus qu'un autre. On va les étudier au fur et à mesure que le Seigneur nous conduira. On va parler de l'huile. Et c'est avec le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 1er, que j'aimerais introduire cette thématique sur l'huile. Deux Rois, chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et pour en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout. » si ce n'est un vase d'huile. Élisée lui répondit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase !» Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Alors l'huile s'arrêta. Amen. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous quelques pensées sur la nécessité de l'huile dans nos vies. Si je devais donner un titre à ce message, je l'appellerais simplement « L'huile est dans la maison ». L'huile est dans la maison. La solution est déjà en toi. La solution est déjà dans l'Église. La solution est déjà dans le mouvement. La solution est déjà en France. L'huile est déjà dans la maison. Cette femme, elle est veuve. Et en relisant ce texte, dans l'analogie, j'ai pensé à cette veuve qu'est l'Église aujourd'hui. L'Église de Jésus aujourd'hui, elle est comme cette veuve, parce que son mari, Jésus, son époux, Jésus, lui a été enlevé. Et il y a bien des moments, frères et sœurs, où nous, les disciples, nous, l'Église, nous, l'épouse, nous sommes comme cette veuve depuis que l'époux a été enlevé. Nous sommes un petit peu comme les disciples qui sont restés là, bouche bée, lorsque Jésus est parti, bien inquiets en se demandant ce qu'ils allaient bien pouvoir faire et qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir devenir en attendant que Jésus revienne. Il y a bien souvent dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, dans nos situations, dans notre mouvement, dans les choses qui se présentent devant nous, il y a bien souvent du désarroi, il y a bien souvent de la détresse. Il y a des situations familiales qui sont critiques, qui sont catastrophiques. Il y a des situations de couple qui sont catastrophiques. Il y a des situations maritales, des situations ecclésiales, des situations en tout genre qui sont catastrophiques. Et quand je regarde un petit peu l'Église, je regarde le paysage évangélique français aujourd'hui, sans jugement, bien sûr, j'ai vraiment l'impression que la veuve, elle est en danger. La veuve, elle a du mal à lutter pour sa propre subsistance. Parce que la réalité du paysage évangélique français, c'est que dans les églises, depuis des années, les églises de 300 membres sont bloquées à 300 membres. Les églises de 100 membres sont bloquées à 100 membres. Il y en a 3 qui arrivent, 3 qui partent. Il y a 3 contents, 3 mécontents. Il y a 3 baptêmes, 3 enterrements. Et la moyenne nationale française, depuis 40 ans, il ne faut pas se raconter de salade, elle n'a pas bougé. Alors Dieu est bon et dans sa grâce, dans les églises, on sent des soubresauts, on sent que des choses commencent à vibrer, se passent, on a des bonnes nouvelles à droite, à gauche, mais chaque mardi, on est plongé dans les actes des apôtres ensemble, et quand on lit le livre des actes et qu'on regarde notre paysage français, on a mal au cœur, on a juste envie de pleurer et de dire « Seigneur, qu'est-ce qu'on a raté ?» On a dû rater quelque chose. Oui, je sais ce qu'on a raté. On a raté l'huile. Et aujourd'hui, l'Église se retrouve confrontée à sa propre subsistance spirituelle face à la puissance du créancier de ce monde qu'est Satan et la puissance du péché. L'Église se retrouve confrontée, elle ne vit pas avec un V majuscule. L'Église est en train de survivre et elle cherche actuellement, et c'est ce qui me fait peur dans certaines églises, même parfois dans certains mouvements, même dans le nôtre, parfois on fait des photocopies de ce qui s'est passé ailleurs, on essaye de faire des importations de réveil, on essaye de répercuter des trucs, des méthodes, des pâles photocopies de ce que Dieu a fait en Afrique, en Amérique du Sud, en Russie, en Chine, en Asie, etc. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui la veuve, elle survit. Et que ses propres enfants sont menacés par le créancier. Face à la détresse de cette veuve, face à la détresse de l'Église de France aujourd'hui, Élisée a posé deux questions qui m'ont interpellé. La première question qu'il lui a posée, c'est « Que puis-je faire pour toi ?» Ça, dans le miracle, puisque le but, c'est qu'il va y avoir un miracle. Il va y avoir un miracle. Mais dans le miracle, il y a la part de Dieu. Que puis-je faire pour toi ? Le prophète Élisée parle de la part de Dieu. Que puis-je faire pour toi ? Il y aura la part de Dieu dans le miracle qui arrive. Mais il y aura aussi ta propre part parce que Dieu ne fait pas de nous des assistés. Dieu ne veut pas que nous soyons attentistes, que nous soyons passifs. Le Seigneur regarde aussi son épouse de la même façon que Élisée a regardé la veuve et il lui dit « Et maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison ?» Parce que tu vas devoir accomplir ta propre part. Tu as ta part à faire dans le miracle qui arrive dans ta vie, dans le miracle qui arrive dans ton couple ou dans ta famille ou qui arrive dans ton pays, dans ta ville, peu importe. Tu as ta part à faire. Et ces questions vont amener la veuve à faire le point et vont nous révéler ce que la veuve réellement a compris ou pas compris. La vérité, c'est que la veuve, elle n'a pas compris que la solution, c'était l'huile. Elle n'a pas compris que la solution, c'était l'huile. Elle n'a pas compris que l'huile avait toujours été là. Et quand Élisée lui dit « Qu'est-ce que tu as à la maison ?»« Ben, j'ai rien. » Ce qui, pardon, devant les situations, devant les problèmes, devant les enjeux, devant les difficultés en tout genre, beaucoup de chrétiens répondent « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, frère ? Je n'ai rien. Je n'ai pas de solution. » Je ne sais pas comment faire pour ma famille, je ne sais pas comment faire pour mon église, je ne sais pas comment faire pour une ville de 25 000 habitants, je ne sais pas comment on fait pour tout ça, je ne sais pas, j'ai rien. Ah si, il y a un peu d'huile dans un vase là-bas dans un coin. Ben, tu vois, la solution, elle a toujours été chez toi. La vérité, c'est que l'huile, tu ne l'as même pas considérée, tu ne t'en es pas occupé. L'huile, tu l'as laissée de côté, tu l'as négligée. Ce qui est fou aussi, et ce qui peut vraiment être une analogie pour nous, pour notre paysage évangélique français aujourd'hui, c'est que cette veuve, c'est une femme de fils de prophète. Ça veut dire quoi ? Qui étaient les fils de prophète ? Les fils de prophète, c'était un groupe de prophètes qui se rencontraient. Ils avaient l'habitude de partager ensemble, ils avaient l'habitude de s'encourager, ils étudiaient, ils servaient, même dans une certaine mesure, ils vivaient un peu ensemble. Et comme à l'époque, vous savez qu'il n'y a pas la révélation telle que nous l'avons là, complète, le prophète, dans l'Ancien Testament, il parle de la part de Dieu. Le prophète, c'est un symbole de la parole de Dieu. On n'a pas la Bible telle que nous, on l'a. On va voir le prophète, l'homme de Dieu parle, le prophète, c'est la parole. Cette femme, c'est une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Ça veut dire que cette femme, ça fait des années sous tout le ministère de son mari. Elle a la parole, elle a étudié, elle a été encouragée, elle en a eu des réunions, elle a son petit vocabulaire évangélique, pardonnez-moi la métaphore. Comme nous, elle a ses habitudes, elle a ses petites rencontres, elle a ses réunions hebdomadaires, elle a son service, elle a ses codes, elle a son vocabulaire, elle a ses agapes, elle a une association cultuelle, ça fait des années qu'elle s'assoit sur la chaise de l'église. Mais quand vient la difficulté que le créancier lui dit « je vais te prendre tes enfants », elle ne sait pas quoi faire. 40 ans assise à écouter des prédications. Et je n'ai pas une parole, je n'ai rien de l'esprit, je n'ai pas de puissance pour sauver mes propres gosses. Sans réelle solution face aux problèmes, dans les défis, dans les situations dans lesquelles Dieu nous entraîne, on a toujours, oui, un petit conseil évangélique par-ci, par-là, on a toujours une petite parole, parfois plus sortie de son contexte qu'autre chose, mais on n'a pas de véritable liberté, il n'y a pas de véritable délivrance, il n'y a pas de véritable croissance, on n'a pas pu empêcher l'ennemi d'emmener nos enfants. J'ai été pasteur à Reims, j'ai été responsable en région parisienne, j'ai été pasteur à Caen, je suis pasteur ici, frères et sœurs, tous les frères et sœurs de toutes les églises que j'ai, dans lesquelles j'ai travaillé et même ailleurs, m'ont tous dit les mêmes choses, ils m'ont tous rapporté le même constat au sujet de leurs enfants. Ce sont des centaines et des centaines, avec les conjoints et les petits-enfants maintenant, il y a des centaines, des dizaines de milliers, des centaines, des milliers, même peut-être des dizaines de milliers de vos enfants et de vos petits-enfants que le créancier a emmenés. Et vous allez parler avec n'importe quel chrétien de n'importe quelle église de France, toute cette génération se dit « qu'est-ce qui se passe ? On a manqué quelque chose. Il y a une génération manquante, la génération des quadras. Elle est très 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 faible, elle est très peu représentative. Notre mouvement vieillit. Pardon, ce n'est pas un manque de respect. Les églises sont vieillissantes. » Oui, il y a une génération maintenant qui commence à venir, on voit le Seigneur qui commence à lever des choses parmi des beaucoup plus jeunes, mais on voit un énorme fossé, un énorme trou dans le paysage évangélique, et on dit « où sont les quadras ? Où est ma génération ?» Le créancier a emmené des centaines et des milliers. Lui, il a toujours été là. Et le problème de cette veuve, le problème de l'Église, c'est que oui, elle a la parole. Oui, la parole, c'est la parole de Dieu. Oui, on a une doctrine impeccable. Oui, il ne faut surtout jamais toucher à la doctrine. Malheur à celui qui touchera un seul iota de cette lettre. On est bien d'accord. Oui, la doctrine, c'est très important. Le problème, je vous l'ai toujours dit, dès le début de la série de messages, on n'a pris qu'un seul rail. Les mouvements qui ont négligé la vie de l'esprit et qui ont pris que le rail de la parole, le train, il a fini par dérailler, le moteur a calé. Faute d'huile, le moteur a calé. Et les églises de 300 membres ont calé à 300 membres. Les églises de 500 membres ont calé à 500 membres. Parce que faute d'huile, le moteur a calé. Faute d'huile, si je n'ai que la parole, je ne roule que sur un rail. Et d'autres, malheureusement, parce qu'ils n'ont pris que l'esprit, sans le cadre béni et protecteur de la parole, ont aussi dérivé. Ce sont deux rails inséparables, l'esprit et la parole. Mais la parole, ce n'est pas Stéphane Brion qui le dit, c'est Paul qui le dit. La lettre tue. La parole de Dieu, je la respecte, je l'aime de tout mon cœur. La parole sans l'esprit, c'est une lettre morte. La parole sans l'esprit, ça vous fait des églises légalistes. La parole sans l'esprit, c'est un code moral, rien de plus, qui nous laisse sans puissance de vie. On a une norme excellente, parfaite et suprême, mais la vérité, c'est qu'on n'arrive même pas à la vivre nous-mêmes. Forcément, sans la puissance de l'esprit qui vivifie. Alors nos enfants nous ont regardés, ils ont dit, ben écoute, quand tu mettras ça en pratique, tu viendras me faire la morale plus tard parce que je ne suis pas venu à la réunion. Mets ça déjà en pratique dans ta vie, puis moi en attendant, je vais faire la mienne. La parole est l'esprit. L'esprit est la parole. La veuve, l'église, n'a même pas été capable de sauver ses propres enfants. Et alors qu'on a une génération entière qui est dehors, sous la puissance du créancier, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, ah, merci Seigneur, il y a bien une génération suivante qui vient. Il va se passer quelque chose pour la suivante. Qu'est-ce qu'on fait pour cette génération qui est dehors? Comment je vais empêcher le créancier d'emmener encore le peu qui me reste? Je vais être encore obligé de combattre pour ma propre survie. Le peu qui reste dans ma famille, je vais être obligé de peut-être soit de négocier. Notez bien que la veuve, elle n'a pas fait de négociation, elle n'a pas fait de compromis avec le créancier. Elle a obéi à ce que la parole lui disait. Qu'est-ce que je vais faire? Des compromis? Laisser tomber? Qu'est-ce que je vais faire? M'enfermer dans le passé? Oh, c'était tellement mieux à l'époque du frère Intel. Il y a toujours eu de l'huile. Il y a un peu d'huile. Et la veuve, l'Église aujourd'hui, a besoin de comprendre que dans cette huile, il y a un potentiel extraordinaire qui est inexploité, qui est négligé, laissé dans un coin. Et c'est ce qu'on a fait avec le Saint-Esprit. Je n'ai rien, verset 2. Ah ben moi, j'ai rien. J'ai rien. Bon, un peu d'huile. Ah oui, d'accord. J'ai rien. Elle n'a toujours pas compris. Elle n'a pas pris conscience. Elle n'a pas saisi le potentiel qu'il y a en Dieu, j'insiste, Dieu le Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que lui, il est dans la maison. La bonne nouvelle, c'est que lui, il a toujours été là. La bonne nouvelle, c'est que tu t'y remets quand tu veux. C'est quand tu veux, tu obéis. C'est quand tu veux, tu te présentes à Dieu comme un vase vide. C'est quand tu veux, parce que le Saint-Esprit est là. Et tout peut arriver. Mais s'il n'y a pas de vase vide, il ne va rien se passer. Cette femme qui est parmi les fils des prophètes, comme l'Église, la veuve que nous sommes aujourd'hui, pardon, elle est trop remplie d'autre chose. Elle est trop remplie de connaissances stériles, de connaissances intellectuelles. Une connaissance stérile qui ne sert à rien, qui ne produit rien, qui ne nous emmène pas plus loin. Une connaissance qui parfois sert plus à nous écraser, à nous condamner tellement on n'est pas au niveau de ce qu'on lit, que quelque chose qui va nous libérer, nous délivrer, nous emmener plus loin. Que puis-je faire pour toi? Tu as besoin d'un miracle? Ça tombe bien, Dieu est le Dieu des miracles. Mais Dieu ne va pas faire de toi un assisté. Et cette femme, excusez-moi l'expression, cette veuve, il a fallu qu'elle se bouge. Elle a compris qu'à un moment, elle devait être actrice de son propre miracle. Et que si elle voulait un miracle que Dieu voulait lui accorder, il fallait qu'elle aille le chercher. Et qu'elle obéisse à la parole que le prophète allait lui donner. Il va te falloir de l'huile. C'est ça la solution. La solution, ce n'est pas d'avoir une troisième, quatrième, cinquième réunion hebdomadaire. La solution, c'est l'huile. Elle a dû se bouger. Elle a fait une démarche très simple. Et lisez la parole. Dieu lui a demandé de faire une démarche très simple, une démarche en trois étapes. La première chose que Élisée lui a demandé, c'est de sortir. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Parce que les petits moments de louange, les petites prédications, les petites églises, les petits cafés, les petites réunions, les petites agapes, Dieu est grand. N'en demande pas un petit nombre. Arrête de penser petit. Arrête de voir petit. Arrête de lire petit. Arrête de réclamer petit. Arrête de venir aux réunions avec un petit cœur. Arrête de réfléchir et de prier petit. Il a fallu qu'elle sorte. Est-ce que nous, pardonnez-moi l'expression, est-ce que nous, on ne devrait pas sortir aussi parfois de nos quatre murs? Sortir de nos quatre murs, c'est-à-dire sortir de nos pensées, sortir de ces raisonnements, sortir de ces conceptions étriquées qui sont de véritables prisons intérieures. Ce qui empêche les églises aujourd'hui de connaître une véritable croissance qualitative et quantitative, ce ne sont pas les murs qu'elles se sont construits, ce ne sont pas les murs dans lesquels elles se sont enfermées. Ce sont les murs spirituels dans lesquels elles se sont laissées enfermer par le créancier. Elle a dû sortir de ses forteresses, de ses prisons intérieures. Frères et sœurs, l'huile est là. L'huile est là. L'huile est là. L'huile est là. Le problème, c'est que c'est nous qui la limitons. Parce que l'action de Dieu est illimitée. Il y aura de l'huile autant qu'il y aura de besoin. Il y aura de l'huile autant que nécessaire. Quand vous lisez bien le verset 6, vous vous apercevez que l'huile s'est arrêtée au moment où il n'y avait plus de vase. Le problème, ce n'est pas le manque d'huile. Le problème, c'est le manque de vase. Et le premier vase que Dieu veut remplir, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Mais elle coulera, cette huile, parce que l'huile a un potentiel inimaginable. Elle a un potentiel infini. Il a fallu qu'elle commence à sortir de cette prison intérieure dans laquelle elle se trouvait. Je peux pas, j'y arriverai pas, comment voulez-vous ? Il y a tellement de gens inconvertis, mes enfants ils sont partis depuis tellement longtemps, ils sont tellement loin, ils sont tellement comme ci, ils sont tellement comme ça, ah puis il y a encore ci, ah puis il m'a encore fait ça cette semaine, et puis vous comprenez, des constats. Des fois, on est la brigade des constatations. Nos conversations nous servent à constater. Comme le peuple, sous la direction de Saül, quand il était face à Goliath, vous lisez les réflexions du peuple, c'est la brigade des constatations. Ça, l'analyse, elle est forte, elle est très bonne. On sait analyser pourquoi, dans nos églises ou dans notre pays, il y a des choses qui ne vont pas. Le peuple, sous la direction de Saül, les hommes armés, ils savaient très bien faire l'analyse parfaite et impeccable du géant Goliath. Vous avez vu cet homme qui s'avance ? Vous avez vu ce géant ? C'est certainement pour nous jeter un défi qu'il s'est avancé. Ah oui, certainement. Constatation. Lorsque Jésus entraîne ses disciples avec une foule affamée, assoiffée, les disciples, ce sont les champions pour faire des analyses impeccables. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième. Seigneur, on va t'expliquer, on est les champions de l'analyse. Ce lieu est désert, la foule est nombreuse, il est très tard, conclusion, renvoie-la. La brigade des constatations, je les appelle, les champions de l'analyse. S'il avait fallu construire un cabinet pour faire une audite, il l'aurait bien fait tourner, il n'y avait pas de problème. Il faut sortir de tout ça. Et il faut commencer à considérer l'huile que l'on a négligée depuis si longtemps. La deuxième étape de sa démarche, ce qui m'a marqué, c'est que Élisée lui a dit, quand tu seras revenu avec les vases, tu vas fermer la porte sur toi et sur tes enfants. Lorsque, dans le récit suivant, Élisée va ressusciter le fils de la Tsunamite, Géasi, on le sait, va venir avec le bâton de la parole, il va venir sans onction, sans esprit, sans huile, sans amour, sans compassion, il n'est pas concerné, Géasi, il obéit bêtement, il fait ce qu'on lui dit, il prend le bâton, il va le poser sur le visage de l'enfant, ça ne marche pas. Mais le bâton, ça ne marche pas. Mais quand Élisée, lui, vient, parce qu'il est rempli de l'esprit, et c'est ça qui fait la différence. L'esprit a toujours fait la différence. Quand Élisée vient et qu'il est rempli de l'esprit, il nous est dit que Élisée est monté et qu'il a fermé la porte sur lui et sur l'enfant. Il a dit à cette femme, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Dans le récit suivant, il ferme la porte sur lui et sur l'enfant. Ça me parle d'intimité. Tu fermeras la porte. Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Seigneur, j'ai tellement de choses à faire. C'est pas ce que tu fais qui va te sauver. Ah, on a ce côté un petit peu triomphaliste dans nos églises. Ah, on a fait ça pendant des années. Moi, je me souviens de l'époque où on faisait 19 réunions par semaine. Moi, je me souviens de l'époque où on a fait l'école du dimanche pendant 40 ans. Ah, je me souviens. Oui, c'est très bien de se souvenir. J'aimerais voir les résultats, s'il vous plaît. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. J'insiste. Ce n'est pas ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu qui va sauver notre couple, qui va sauver nos familles, qui va sauver nos enfants, qui va sauver les gamins de l'école du dimanche. Ce n'est pas ce que nous faisons qui va sortir les... C'est ce que nous sommes. Quand les choses ne vont pas, on dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc tu fasses ça ou autre chose, ça ne marchera pas. T'inquiète pas, ça ne marchera pas. La vraie question, ça devrait être « qu'est-ce qu'on est ?» Ben, on est rempli de l'esprit. Ah ben oui, mais là, ça va marcher. C'est une question de ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes remplis de l'esprit ? Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton père te le rendra. Ça me parle d'intimité. Ça me parle de vie secrète. Ça me parle de vie cachée. Ça me parle d'aller me placer dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là que je vais aiguiser mon fer de hache dans la présence de Dieu pour être efficace. C'est là que ça va se passer. C'est là que les combats se livrent. C'est là que les combats et les victoires se remportent. C'est dans la présence de Dieu que ça se passe. Ça se passe nulle part ailleurs. C'est dans le secret, dans l'invisible, que la sève du Saint-Esprit, montant, venant du cep, passe dans le sarment. C'est dans le secret, c'est dans l'invisible. Pourquoi il y a eu du fruit sur tel arbre? Pourquoi il n'y a pas eu de fruit sur tel arbre? Le sarment, il est constamment greffé au cep. Et la sève de l'Esprit, elle monte du cep, elle passe par le sarment, et le miracle a lieu. C'est dans l'intimité. C'est là que ça se passe. Mon message n'est pas moralisateur, frères et sœurs, mais on a besoin d'apprendre à aller s'enfermer avec Dieu. C'est là que ça se passe. Ferme la porte sur toi et sur tes enfants. C'est dans l'intimité que ça va se passer. C'est là que le miracle doit avoir lieu d'abord. C'est là que tout va se jouer. C'est dans le secret que l'huile, elle doit couler. C'est là que l'huile coule, à l'intérieur, dans le secret. C'est là que je présente au Seigneur le vase vide qu'il doit remplir. Le problème, frères et sœurs, je ne veux pas faire de reproches, c'est pas qu'il n'y a pas d'huile. L'huile a un potentiel illimité. Il n'y a jamais de rupture de stock. Il n'y aura jamais de panne sèche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vase. Il n'y a pas de vase vide. Ou alors, il y a des vases, mais des vases qui sont pleins. Des vases qui sont déjà remplis. Remplis d'autre chose. Remplis d'eux-mêmes. Des fois, je viens, je m'essaie de me mettre devant Dieu, mais la vérité, pardon, hein, j'ai lu des trucs. Allez, on ne va pas se mentir. Ça ne m'a rien donné, j'ai rien compris. Je suis venu, j'ai prié, j'ai parlé encore au Seigneur de telle ou telle ou telle situation. J'ai encore expliqué au Seigneur combien mon problème est grand. Brigade des constatations. Le problème, c'est que les vases que nous sommes, frères et sœurs, ils peuvent être déjà remplis. Dieu ne peut remplir que ce qui est vide. Quand on vient et qu'on est rempli de nous-mêmes, vous repartirez rempli de vous-même. Parfois, on est rempli de nos doutes. Parfois, on est rempli de nos excuses, de nos propres justifications. On est rempli de notre passé. On est rempli de nos peines. On est rempli de nos blessures. On est rempli peut-être de nos propres réflexions, de nos expériences, de nos suffisances, de nos raisonnements, de nous-mêmes. Pardon, pardon, pardon. On est tellement convaincus qu'on sait tellement de choses sur tellement de sujets. Ce qui est extraordinaire avec cette femme, c'est qu'à un moment, elle a pris conscience que la solution, c'était l'huile et qu'il fallait arrêter de la négliger. Et quand elle a pris conscience de cela, vous savez, elle a fait un truc très simple qui plaît à personne. Elle a obéi. Oui, tu es blessé. Oui, tu as tes souffrances. Oui, on a été injuste avec toi. Oui, tu en as bavé. Oui, tu as eu des problèmes. Oui, tu es menacé même dans ta propre survie. Oui, 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 d'accord. L'huile est faite pour ça, d'accord. Mais pardon, 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 c'est quand que tu obéis dans tout ça? C'est quand que tu obéis? Cette femme, elle a obéi. Elle a présenté des vases vides. Et vous savez, frères et sœurs, avant que je conclue avec le dernier point, l'esprit conteste avec nous. Et au travers de beaucoup de nos situations, au travers de beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés, le Saint-Esprit, pardonnez-moi, nous laisse un peu mijoter dans notre jus, avec amour, mais dans notre intérêt, parce qu'il faut qu'on arrive, c'est la pédagogie divine, il faut qu'on arrive dans sa présence à se vider. Il faut être vidé de nous-mêmes. Des fois on dit « Seigneur, remplis-moi ». Si tu avais conscience de tout ce qui te remplit déjà. Si je prends un verre d'eau, il est plein. Vous mettez ce que vous voulez, du coca, du fanta, du ce que vous voulez. Il est plein. Je ne peux rien mettre dedans. Je ne peux pas mettre d'eau. Il faut que je le vide. Et il y a beaucoup de situations de nos vies, frères et sœurs, que le Seigneur permet, dans lesquelles j'insiste, il nous laisse un petit peu mijoter. Parce qu'il faut qu'on arrive à être vidé, vidé, vidé et encore vidé. Et une fois qu'on est vidé, il nous purifie, il nous nettoie, et après il nous remplit. Il met un vin nouveau, il met une eau fraîche, il met, prenez l'image que vous voulez. Elle a présenté des vases vides. Elle a obéi, elle a présenté des vases vides. Et le miracle commence quand il y a des vases vides. Le miracle se termine quand il n'y a plus de vase vide. Je ne sais pas dans l'histoire du paysage évangélique français, je ne sais pas en quelle année, où, quoi, quand, comment, j'étais pas né, je ne sais pas où j'étais, peut-être pas encore en âge de comprendre les choses, je ne sais pas quoi, où, quand, comment, l'huile a cessé de couler, pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de vase, et pourquoi à un moment ou à un autre il n'y avait plus de vase à remplir, je ne peux pas expliquer, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Je sais une chose, c'est que le miracle commence, l'huile coule quand il y a des vases vides, et l'huile s'arrête quand il n'y a plus de vases vides. Et l'huile, elle est toujours là, même en 2019, gloire à Dieu. Et quand il y aura des vases vides, ben, il y aura beaucoup d'huile. Quand il y aura beaucoup de vases vides, ben, il y aura beaucoup d'huile. Amen. Elle a obéi, elle a fait son acte de foi. C'était sa troisième étape. Je termine avec ça. C'était sa troisième action. Après être sorti de ses conceptions, après être sorti de ses raisonnements, de tout ce qui l'étriquait, de tout ce qui l'enfermait, de ses peurs et de tout ça, ensuite, elle a retrouvé le chemin de l'intimité. Et après, dans l'intimité, elle a présenté des vases vides. Elle a obéi. Frères et sœurs, je sais que ça dérange, je sais que ça choque. Je n'ai pas seulement foi dans la parole. Tout ce que je dis ne sert pas à dénigrer la parole. C'est juste un aspect de la vérité. J'ai foi dans la parole, mais j'ai foi dans l'Esprit de Dieu. J'ai foi en Dieu, le Saint-Esprit, qui a lui-même inspiré cette parole. Parce que sans le Saint-Esprit, même ça, vous ne l'auriez pas. Sans le Saint-Esprit, souvenez-vous, on l'avait vu, hein. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien, rien, rien. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de Jésus incarné, il n'y a pas de Jésus ressuscité, il n'y a pas de création. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. On ne peut pas faire plus simple. Il n'y a rien. Et là, je n'ai pas foi seulement dans la parole, j'ai foi dans la personne de Dieu le Saint-Esprit, dans cette huile à qui je vais permettre de couler en moi. L'huile, elle a une caractéristique, au même titre que l'eau. On a chanté trois images merveilleuses dans le chant de tout à l'heure. L'eau, le vent, le feu. L'eau, elle est faite pour couler. Si ça ne coule pas, ça stagne. Il va y avoir putréfaction. Le feu, s'il ne brûle pas, il va s'éteindre. Il y aura des cendres fumantes, ça ne sent pas bon. Le vent, il est fait pour souffler. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Le vent souffle. Il y a toujours du vent, il y a toujours de l'air. Le vent souffle. Eh bien, pour l'huile, c'est la même chose. L'huile n'est pas faite pour stagner. Elle est faite pour se répandre. Elle est faite pour couler en abondance dans le vase que je suis, pour ensuite être déversée sur les autres. Vivre, frères et sœurs, une vie remplie d'huile. Une vie remplie d'huile fraîche, une vie remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Jésus n'a jamais présenté la vie chrétienne autrement que remplie du Saint-Esprit. Les apôtres n'ont jamais présenté la vie chrétienne autrement que remplie du Saint-Esprit. Sans ça, c'est voué à l'échec. Et ce que je suis appelé à vivre, c'est une Pentecôte, non pas expérimentale, non pas ponctuelle, c'est vital, je suis appelé à vivre une Pentecôte renouvelée, personnelle, permanente, entretenue. Il faut que je veille à ce que l'huile coule sans arrêt dans le vase vide que je suis. Tant que tu te présenteras devant Dieu comme un vase plein, peu importe ce qui te remplit, pardon, il ne se passera à rien du tout. Ni pour toi, ni pour ta famille. Mais le jour où tu vas te laisser vider par Dieu et que tu vas te retrouver là comme un vase vide et que tu vas comprendre que sans l'huile, tu es fichu, pardonne-moi l'expression, sans huile, tu es fichu, tu vas rester devant Dieu et tu vas apprendre à chérir et à entretenir cette huile, cette onction fraîche, renouvelée, qui coule en permanence et qui m'assure, pas une survie, mais qui m'assure la vie que Jésus m'a promis. Moi, je ne veux pas la survie de l'église de Manosque. Je ne veux pas la survie de l'église en France. Je veux la vie, avec un V majuscule, parce que c'est ce que Jésus a promis. Et là, dans le secret, là, dans sa présence, je suis là, je le laisse agir. Je parle en langue, je suis baptisé, je suis renouvelé dans le Saint-Esprit, et puis je parle en langue. Quand je parle abondamment en langue, c'est comme ça que je permets au feu de brûler. Quand je parle abondamment en langue, c'est comme ça que je permets à l'eau de couler et d'irriguer toutes les parties de mon cœur. Quand je parle abondamment en langue, c'est comme ça que je permets au vent de souffler et d'aérer même les parties les plus reculées de mon cœur. Et quand je parle abondamment en langue, quand je suis devant Dieu comme un vase vide et que j'entretiens cette Pentecôte personnelle, permanente, continue, ininterrompue, c'est là que je permets à l'huile de couler, de me rafraîchir, de me guérir, d'agir, de me donner la vie et de me libérer avec tous les miens, de me libérer de la puissance du créancier qui est à la porte et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de savoir quelle est la prochaine brebis qu'il va dévorer. Merci Seigneur, la solution c'est l'huile. 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 Et l'huile, elle est dans la maison. Il ne faut pas la négliger. Amen.